France Culture. Les nuits de France Culture.
Qu'est-ce qu'un répertoire aujourd'hui ? C'était la question que Jean Dève posait dans la quatrième et dernière émission de la série du Pays d'ici, qu'il consacrait en 1991 au Théâtre National de Strasbourg, dont Jean-Marie Villégier venait de prendre la direction depuis peu. La question du répertoire était posée au tout nouveau directeur du TNS, à Gilbert Tsai, qui présentait alors au Palais Rohan de Strasbourg l'un de ses spectacles qui tournait le dos au répertoire, à Claude Gironès, directrice du Théâtre du Maillon, à Roland Recht, conservateur des musées de Strasbourg, au journaliste Antoine Vicaire et à André Pomara, directeur du Théâtre Jeune Public. Alors que parallèlement intervenaient le philosophe Philippe Lacoulabarthe, Jean-Pierre Vincent et Jacques Lassalle évoquaient, eux, la manière dont ils avaient abordé cette question lorsqu'ils étaient à la tête du TNS. À toutes les interrogations autour du répertoire au théâtre soulevé dans cette émission, la réponse la plus convaincante et aussi la plus émouvante était peut-être bien celle qu'apportait Jean-Marie Villégier pour finir, en rappelant la manière dont les avait surmonté Jean Villard en prenant la direction du nouveau TNP en 1951. Le Pays d'ici, théâtre à Strasbourg, quatrième et dernière émission, Qu'est-ce qu'un répertoire aujourd'hui, diffusé le 31 mai 1991 sur France Culture.
S'il s'agit du répertoire d'une entreprise, d'un théâtre, ça a d'abord un sens pratique. C'est la possibilité d'avoir engrangé les spectacles et de pouvoir les reprendre. Un point de vue tout à fait étroit, mais qui est utile. Le répertoire de la Comédie française, ça veut dire qu'ils peuvent remonter une pièce de l'an dernier, si c'est nécessaire. Le répertoire d'un homme, c'est les choses qu'il aime. C'est tout à fait différent. C'est les styles vers lesquels il est spontanément orienté. Les choses qu'il a envie de faire, et qu'il fait bien, qu'il fait le mieux, qu'il fait le moins mal. C'est ça le répertoire d'un homme. Le répertoire d'un théâtre, c'est une question de presque économique, si vous voulez.
Mais idéalement, je ne vois pas du tout ce que pourrait vouloir dire répertoire aujourd'hui. Ou bien le théâtre est un conservatoire, et alors à ce moment-là, bon, y a un répertoire qui est constitué historiquement et on le joue. Chaque metteur en scène le retravaille à sa façon. Ou bien alors on fait du théâtre, et je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de prendre des textes très anciens ou de s'adresser à des auteurs contemporains. Enfin, bon, ce qui était plutôt la tendance de Vincent quand il était ici.
Hubert Gignoux, qui a dirigé le Théâtre National de Strasbourg de 1957 à 1971, et le philosophe Philippe Lacoulabarthe viennent de définir le mot « répertoire ». Quel sens ce mot a-t-il aujourd'hui ? Quel sens lui donner ? Comment résonne-t-il en nous, spectateurs, critiques, directeurs de théâtre, metteurs en scène, conservateurs de musées ? À une époque, de toutes les approches du théâtre, du texte, de l'image, à une époque du « in » et du « off », du théâtre de l'absurde, du silence ou encore des tableaux impossibles. Pour reprendre le titre d'une mise en scène de Gilbert Tsai que nous avons vue à Strasbourg. Ici, l'idée de spectacle est simple. 6 décors ou peintures immobiles sont mis en rapport avec la parole, le mouvement, le théâtre, par des comédiens qui jouent. Le spectacle est un voyage dans la mesure où les spectateurs, munis de leurs sièges pliants et répartis en 6 groupes, se déplacent 6 fois dans les musées de Strasbourg pour participer à 6 représentations. Un tableau final, le 7e, réunit les spectateurs des 6 groupes. Théâtre Trottal ou Théâtre de l'impossible en marge de l'idée de répertoire à voir. Nous sommes dans la cour de l'hôtel Rouen avec des tickets jaunes pour assister à votre pièce impossible, Gilbert Tsai.
Oui.
Allons-nous faire ?
Alors, eh bien, si vous avez un ticket jaune, ça veut dire que vous allez commencer. Votre premier tableau sera le tableau de Piotr Kowalski, qu'il a fait avec, sur un texte de Gerasim Luka, qui s'appelle Sisyphe géomètre.
Alors, quel est votre projet ? Pourquoi théâtre de l'impossible et tableau impossible ?
Bien, il y a longtemps que je voulais faire un travail avec les peintres, mais je voulais qu'ils n'interviennent pas comme ils interviennent généralement au théâtre, c'est-à-dire en tant que décorateurs, mais qu'ils soient vraiment à l'origine du projet. Et c'est pour ça que je suis allée les voir en leur demandant si à un moment dans leur travail, il y avait eu un tableau impossible. Parce que je pensais que justement, si ce tableau ne s'était pas déposé sur la toile, ce désir de tableau pouvait constituer le point de départ d'une collaboration.
Donc nous allons vous suivre pendant 6 tableaux.
7 tableaux.
Plus le tableau final.
Plus le tableau final, c'est ça.
Sphère. Corps angoissant, tel que toutes les lignes angoissantes tirées par angoisse à la surface de l'angoisse sont égales à l'angoisse. Angoisse céleste angoissante, ou imaginaire angoissé, ayant pour centre angoissant l'œil angoissé de l'observateur angoissant.
Alors nous avons vu des figures géométriques délimitées par des lignes bleues de néon.
Oui, c'était donc le Sisyphe géomètre de Piotr Kowalski. Alors ce tableau impossible est né d'une... En fait, Gerasim Luka et Piotr Kowalski avaient fait un livre-objet, qui s'appelait le Sisyphe géomètre, et c'était une petite boîte noire sur laquelle étaient posés des volumes de verre dans lesquels était enfermé un gaz qui s'éclairait lorsqu'on les posait sur cette boîte noire. Et quand on les retirait, on entendait la voix de Gerasim Luka. Et donc, on a tenté avec Piotr Kowalski d'adapter ce livre-objet au théâtre. Donc, il s'agit de formes primaires, un cercle, un triangle, peint de couleurs fluorescentes qui tournent, et avec la persistance rétinienne, effectivement, on voit apparaître ces volumes virtuels et on entend la voix de Gerasim Luka.
C'est-à-dire, c'est appliquer l'espace du livre à l'espace de la scène, au fond.
C'est ça.
20 ans ou 30 ans plus tard.
Voilà.
En direct, pour la dernière fois, de la salle de musique de l'école du TNS, avec nous, évidemment, Jean-Marie Villigier, directeur du TNS, Antoine Girard, son assistant, Claudine Gironès, directrice du Théâtre du Maillon, André Pomara, directeur du Théâtre Jeune Public, Antoine Vicaire, journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace, et Roland Recht, conservateur des musées de Strasbourg. Alors tout d'abord, je me tourne vers André Pomara. Et je lui pose la question, que pensez-vous du répertoire ?
Alors je dois vous répondre que vous tombez très mal, parce que je dirige un théâtre jeune public, et s'il y a un terrain vierge, je dois dire que c'est bien le répertoire du jeune public. Il est curieux de constater, c'est que l'édition en direction des enfants est très prolifique, comme vous savez, puisqu'il y a même des maisons d'édition qui vivent, ou qui se sauvent par l'édition jeune public. Et en ce qui concerne le répertoire de théâtre, eh bien, c'est un terrain vierge. Nous sommes obligés de nous replier sur des adaptations de romans, des nouvelles, des contes, et puis de compléter ce qu'on pourrait appeler aussi notre programmation en faisant appel à des gens qui... dont la prise de parole n'est pas à l'écriture, mais je pense le théâtre gestuel, les marionnettes, etc., etc. Cependant, il existe des répertoires, mais on peut constater également que les œuvres ne circulent pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'édition non plus. Il y a des choses qui se passent en Pologne, beaucoup en Italie, etc., même en France. Il y a quelques auteurs, je pense à Boris Yent, à René Pillot, qui ont écrit des choses intéressantes, à Philippe Dorin, qui travaille en compagnonnage avec nous. Et en ce qui concerne l'édition, ça ne circule pas, tout simplement parce qu'il n'y en a pas, ou très peu.
Mais néanmoins, entre les deux guerres, il y avait ce qu'on appelle les baraques.
Ah oui, alors ça c'est un souvenir de jeunesse, ça n'a plus rien à voir avec le répertoire pour enfants, mais si on parle de répertoire, c'est vrai que ce fond dont parlait Virginie tout à l'heure, et qui peut marquer une maison un certain temps, mais ce répertoire, je crois, a existé. Bon, il y a le phénomène patrimonial à conserver, etc., mais je pense aux petites baraques. Là, on peut dire que, issu peut-être du théâtre de foire, il existait 200 petites baraques qui faisaient d'ailleurs l'admiration de Dulin. Ce sont des gens qui avaient leur répertoire, issu aussi du 19e siècle, des écrivains du 19e siècle, ils avaient un répertoire de 20 à 25 pièces. Les deux maris, le coup de fouet, la porteuse de pain, l'arlésienne sans la musique de Bizet, etc., etc. Et il s'implantait, même avant la guerre, il y en avait 200, je crois, il s'implantait dans une ville de moyenne importance, faisant une concurrence effrénée au commerce du coin, et là, pendant un mois, il jouait 15 à 20 pièces, c'est-à-dire il changeait de pièces pratiquement tous les deux jours. Et ils avaient ce répertoire. Ces petites baraques ont disparu après la guerre, il en restait 11, et je repense à Charlet, que j'ai vu, et maintenant je crois que c'est complètement terminé. On peut dire qu'ils avaient un répertoire. Ils avaient leur décor, entoilé, évidemment, ils avaient leur costume, et le costume, ils étaient une compagnie de 10 ou 12 personnes vivant en famille ou avec quelques fous de théâtre qui s'étaient ramassés autour d'eux. J'ai connu des gens extraordinaires, un petit peu comme dans le film Seul dans la nuit, ce vieux théâtre, ce vieux comédien qui habite encore son théâtre, ou la nouvelle de Gogol, hein, le tragédien, pas le tragédien malgré lui, c'est l'autre, ce comédien qui continue à habiter son théâtre et qui vient le hanter le soir. Avec sa... Il y avait des gens comme ça. Ça n'existe plus.
Jean-Marie Villigier, alors qu'est-ce que le répertoire pour vous ? Vous qui êtes professeur, universitaire, metteur en scène et également acteur.
Oh, depuis très longtemps, plus du tout professeur, depuis peu metteur en scène. Oui, c'est compliqué cette histoire et c'est une histoire importante. Le répertoire pour moi, eh bien, c'est d'abord ce document que sortait annuellement la Comédie française dès ses premières années d'existence, aux alentours de 1680. Où se trouvaient trois colonnes, comédie, tragédie, petite pièce. C'est-à-dire pièce en un acte qui servait de levée de rideau. La colonne des tragédies et celle des comédies comptaient chacune une bonne trentaine, sinon une quarantaine de titres. Même chose pour les petites pièces. C'était là tout ce que la Comédie française, en une année donnée, allait représenter, parfois pour un seul soir. Et c'était là ce que les comédiens de la troupe pouvaient être amenés à jouer dans la mesure des rôles de leur emploi. C'est-à-dire, j'ai encore connu ça d'ailleurs à la Comédie française, je me souviens très bien que Albert Aveline m'avait raconté, lorsque je travaillais à la Comédie française pour y monter Sinna, comment, pensionnaire débutante, elle avait du jour au lendemain été avisée qu'elle allait jouer le rôle d'Émilie, qui était son emploi. Et c'était pas rien, Émilie dans Sinna. Bon, nous sommes très très loin de tout ça, mais je ne pense pas qu'il faille revenir, on ne peut pas, c'est tout à fait impossible, revenir exactement à cette pratique du théâtre, qui était une très belle pratique du théâtre. Mais je pense que dans ce fonctionnement, il y a un certain nombre de leçons à tirer, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, s'intéresse au théâtre de l'âge classique. La leçon à tirer, c'est que des pièces comme Phèdre, comme Le Misanthrope, comme Le Mariage de Figaro, sont des pièces qu'il faut laisser mûrir et dont l'existence, en tant que spectacle, ne doit pas être mesurée à la durée d'existence probable de ce qu'on appelle aujourd'hui une mise en scène. Il est, me semble-t-il, tout à fait capital qu'une comédienne qui aborde le rôle de Phèdre ne voit pas son parcours avec un tel rôle se limiter aux quelques 30 ou 50 ou 100 représentations dans les meilleurs des cas qui seront l'espérance de vie du spectacle dans lequel elle a eu l'occasion de découvrir le rôle. De tels rôles, c'est la même chose que Gisèle en matière de ballet. Ou d'ailleurs, c'est la même chose qu'un rôle important dans une œuvre de Martha Graham. Il faut les mûrir. C'est ce dont nous avons un peu perdu l'habitude, ce travail de mûrissement. Et il faut aussi que le public ait l'occasion de revoir un ouvrage avec la même distribution, un peu changé peut-être chez tel ou tel interprète. Bref, je crois que nous avons besoin de revenir à un intérêt pour l'interprétation, pour le travail que le comédien fait sur un grand texte, un peu comme nous le faisons lorsque nous écoutons des versions diverses des suites pour violoncelle de Bach ou des symphonies de Beethoven. C'est tout à fait capital, parce que c'est par là que peut se recréer ce que j'appellerais un public de connaisseurs, ce qui ne veut pas dire un public de privilégiés. On sait qu'au XVIIIe siècle, les connaisseurs, c'était les gens du parterre.
Et devant nous, donc, le décor de François Martin.
C'est ça, le tableau impossible de François Martin. Alors, son tableau impossible, il avait eu le projet à un moment de peindre les tableaux qui sont décrits dans la littérature, qui n'existent pas. Et pour son tableau impossible, il a choisi de parler du tableau qui est décrit dans le roman de Melville, Moby Dick.
Alors vous, vous vous amusez à déplacer le problème du théâtre.
Oui, on peut dire. Surtout, j'essaie
Pourquoi comment
J'essaie de me poser le problème du théâtre en le voyant d'ailleurs. C'est-à-dire que ça m'intéresse toujours de travailler effectivement avec des peintres, avec des architectes, des gens pour essayer de s'éloigner un peu, de ne pas être le nez sur le théâtre, de
le retrouver ailleurs. En quelques mots, votre problème n'est pas du tout le problème du répertoire. Vous tournez même le dos à cette question-là.
Oui, on peut le dire jusqu'à présent, oui.
Le peintre dessinait des séries de petits déjeuners, de sardines, de citrons et de sirènes. Entre chaque dessin, assez souvent, il relevait la tête, comme pour reprendre son souffle.
En allant vers un autre tableau, Gilberte Saille, j'aimerais vous poser une question. Tout à l'heure, le texte disait « Décrivez-nous un tableau impossible ». Est-ce que vous pourriez pour nous décrire un répertoire possible ?
Un répertoire possible. Je pourrais dire que j'invente le mien, en fait. Possible, jusqu'à présent, pour moi, ça a toujours été un répertoire contemporain, mais en fait, non, pas un répertoire, puisque ce sont toujours des textes que je commande aux auteurs. C'est-à-dire que je pars toujours d'un projet, et ensuite, en fonction de l'avancée de ce projet, je demande aux auteurs d'écrire pour moi. Donc, je ne me suis jamais posé le problème du répertoire. Le mien, celui qui est possible en ce moment, c'est celui-là.
Au fond, vous faites votre propre répertoire en commandant des textes.
C'est ça, oui.
Vous faites votre propre mémoire.
Oui.
Vous n'utilisez pas la mémoire de...
Non.
Humaine, je veux dire, collective.
Je l'utilise différemment. Par exemple, dans le spectacle, les petits textes qui sont dits par les guides en exergue au tableau, eux viennent du répertoire, d'un autre répertoire. Ce sont par exemple des extraits des carnets de Vinci ou un texte de Plutarque. Alors là, on peut dire qu'on a une sorte de répertoire.
Je ne sais pas comment formuler ma question, mais est-ce qu'un répertoire se vit au jour le jour ? Est-ce qu'il s'invente ? Est-ce qu'il se trouve ?
Oui.
Au hasard des rencontres ?
Et au hasard des rencontres, au hasard des échecs, des erreurs, des corrections, au rythme des expériences accumulées, c'est-à-dire que quand vous avez le sentiment d'avoir couvert un certain terrain, vous n'allez pas revenir dessus, sauf à vous prélasser toute la vie dans une chose que vous savez bien faire. Moi, aussitôt que j'ai exploré un terrain, j'ai envie d'aller en voir un autre. Quand nous sommes arrivés à Strasbourg, nous avions fait des réunions préparatoires et nous avions un texte. Nous avions un certain nombre de projets. Certains se sont réalisés, d'autres non. Et certains se sont réalisés qui n'étaient pas dans le projet. Mais en fait, le projet, il a servi à vivre la première année ou les deux premières saisons. Après, Étant donné le bilan des deux premières saisons, les choses se sont réaxées, et puis nous avions fait des choses, nous voulions en faire d'autres. Nous ne pouvions pas tout faire, encore une fois, puisque nous avions une composition artistique très précise. Mais nous avons navigué ensuite. Mais en fait, je dis toujours que à quoi ça sert d'avoir un projet ? Ça sert à pouvoir en changer. Si on change sans arrêt de position, sans avoir de projet, on navigue à l'aveuglette. Alors que nous avions un projet très fort et nous avons pu en changer.
Vous, vous dites projet, vous ne dites pas répertoire, qui semble un mot un peu plus ambigu peut-être.
Oui, mais je pense que un répertoire, on peut en parler dans un théâtre en Allemagne, on peut en parler à la Comédie Française, on peut difficilement en parler dans un théâtre qui n'a que 9 acteurs permanents, on peut difficilement en parler dans un théâtre qui n'a pas d'acteurs permanents du tout. Enfin, c'est à ce moment-là, on parle plutôt de programmation. Alors, est-ce que la programmation a une continuité à travers les années ou pas ? Mais un répertoire, c'est lié à l'existence d'une grande troupe.
C'était Jean-Pierre Vincent et sa notion de répertoire. Alors vous, Roland Recht, conservateur du musée de Strasbourg, très brillamment, vous avez fait le pont entre le tableau, le musée, l'image et le théâtre en invitant Gilberte Tsai.
Oui, c'est
dans vos musées.
C'est peut-être dire les choses d'une manière un peu extrême. Disons que l'accueil du projet au sein des musées était quelque chose qui me plaisait beaucoup parce que à cause du contenu de ce spectacle. Il est évident que, pour moi, il ne s'agit pas d'imaginer simplement les musées comme une sorte de structure d'accueil, tantôt théâtrale, tantôt musicale ou autre. Là, il y avait une cohérence. Et d'autant plus grande que la notion de tableau impossible est une notion très, très juste. Je crois que les musées sont remplis de, non pas de tableaux impossibles, mais d'œuvres qui sont finalement une sorte de cheminement vers quelque chose qui est toujours le tableau impossible de chaque peintre. Je crois que chaque peintre a dans sa vie, dans sa production, un tableau impossible, ou parfois plusieurs, enfin, en général c'est un seul, qu'il ne fera jamais, effectivement, qui est impossible par définition même, et que ce qui remplit les musées, au fond, c'est cette course vers ce tableau impossible. C'était très beau d'imaginer qu'au milieu de ces tableaux qui ont été les possibles, donc qui étaient au fond en retrait par rapport à un tableau impossible, tout à coup des tableaux impossibles d'aujourd'hui soient convoqués. Et puis aussi parce que la question comme ça du répertoire que vous posez m'amuse en vous écoutant les uns les autres, non pas parce que ce que vous dites me paraît sans intérêt, loin de là, mais m'amuse parce que j'ai l'impression d'être là un peu comme un poisson qui serait tombé hors du bocal, enfin un poisson rouge qui serait tombé hors du bocal.
Pas du tout.
Et pourtant, en vous écoutant, je me disais que c'est vrai que la notion de répertoire est une notion qui nous est propre aussi au musée, dans la mesure où la question du répertoire, pour nous, ce serait un peu à formuler en termes d'inventaire et en termes de réserve. Un tableau qui rentre dans un musée, c'est un tableau qui est inscrit en inventaire, il fait partie du répertoire du musée. Contrairement à un spectacle qui est donné dans une salle de théâtre, on ne va pas en changer. Ce tableau nous est définitivement propre, nous est acquis. Par contre, la vie de ce tableau à l'intérieur du musée va être une vie extrêmement active. C'est-à-dire ce tableau va passer de l'exposition, je dirais, vive, crue, à des expositions beaucoup plus peut-être mises en scène d'une manière différente, dans des perspectives différentes, dans des regards différents. Elle va être confrontée à d'autres œuvres dans le cas d'expositions temporaires, et que du coup la réserve, ce serait cette espèce de répertoire dans lequel on peut puiser constamment des œuvres pour les mettre en regard avec d'autres œuvres. Bon, je pense que l'analogie peut encore être poursuivie et elle est évidemment toute relative parce que dans ce genre de parallèle, il faut toujours être extrêmement prudent. Enfin, je trouve ça assez intéressant d'essayer de raisonner un peu dans la structure d'un musée par rapport au théâtre. Ça m'a souvent intéressé parce que il se trouve que j'ai été un petit peu associé à l'un ou l'autre travail du TNS il y a longtemps. Et que l'idée de la scénographie, de la mise en scène d'une exposition, qui rejoint, bon, par, je dirais par le terme même de scénographie, on voit bien à quel point ça rejoint des problèmes propres au théâtre, par la mise en place des objets, par l'éclairage, par le discours, qui peut être un discours d'intense dramatisation de la présentation de l'accrochage, etc. Cette analogie, au fond, est tellement profonde qu'on se rend compte qu'en accueillant un spectacle comme on l'a fait là, avec les Tableaux Impossibles de Gilbert Tetzai, on est presque dans quelque chose qui est, j'allais dire trop éloquent, c'est pas, qui est d'une richesse telle que du point de vue aussi bien sémantique que scénographique, on est dans quelque chose qui donne envie de continuer, quoi. On a envie de continuer de travailler avec les gens de théâtre.
Alors, vous êtes là pour deux raisons. Parce que le répertoire, pour vous, s'appelle Jean Harpe.
Oui.
Et depuis quelques jours, ces fameux tableaux impossibles, qu'est-ce que vous allez en faire? Ils sont très beaux. Ils sont massifs, monumentaux.
Oui. Oui, ça, c'est une très bonne question. Je ne pensais pas du tout que vous alliez me la poser, parce que c'est évidemment un piège. D'un côté, je connais plusieurs des artistes qui ont été les auteurs des scénarios. Et j'aime beaucoup leur travail. Donc je veux lever toute ambiguïté, parce que la réponse que je vais faire après n'est pas aussi, ne va pas dans un sens aussi positif. Je pense par contre que ces tableaux impossibles,
je vous coupe, représentent parfois l'atelier du peintre.
Oui. Oui.
Je pense à Monino par exemple, oui. Ou à Gilles Ayot.
Oui. Vous dites bien représente. Nous avons par exemple acquis l'année dernière l'atelier de Robert Filliou, qui à sa mort a laissé un atelier en état. L'atelier Brancusi se trouve à côté du centre Pompidou. Ça, c'est l'atelier saisi, je dirais, dans sa réalité archéologique. Bon, qui peut être ou ne pas être, ça c'est une autre discussion qu'on peut avoir, transposée dans un musée. Mais par contre, là, ce sont des fictions. Ce sont des fictions d'atelier. Ce sont des images d'atelier destinées à une représentation théâtrale. Donc, il me semble à moi impossible, en tant que responsable de collection, d'intégrer d'une manière ou d'une autre quelque chose qui serait ces tableaux impossibles. Par contre, j'en avais parlé avec Gilbert Tetzai, une idée qui me plaisait beaucoup, c'était de proposer que ces tableaux impossibles dorment dans une réserve chez nous, à Strasbourg, et qu'un jour, Gilbert Tetzai ou quelqu'un d'autre les réveille. Un petit peu comme, j'allais dire, Belle au bois dormant, les réveille pour les inciter à revivre autrement ou dans un autre contexte. Mais c'est tout ce qu'on peut en faire. Elles ne peuvent qu'être abritées dans une réserve et demeurer à l'état de fiction.
Alors nous revenons peut-être à la notion plus littérale du théâtre. Jean-Marie Villégier.
Ah, j'étais ravi par ce que vient de dire M. Recht au début de son propos. J'aimerais bien reprendre l'analogie dans l'autre sens. À savoir qu'en effet, ce que permet un répertoire, ce sont des accrochages. C'est le renouvellement du regard par le renouvellement de l'accrochage, et même par le renouvellement de la lumière. Et ça, c'est tout à fait important. C'est une chose que nous avons un peu perdue. J'ai bien entendu ce qu'a dit Jean-Pierre Vincent au passage, qu'il faut une grande troupe pour prétendre avoir un répertoire. Je ne suis pas si sûr que la troupe doive être si grande. Je ne suis pas si sûr non plus que, en l'absence de troupe ici, nous ne puissions pas malgré tout, non pas réaliser l'ancienne formule du répertoire, mais flirter avec cette idée, ce qui me semble, à la limite, peut-être plus intéressant que de reprendre l'idée elle-même telle qu'elle. En tout cas, moi, il me plairait beaucoup de penser que cette Phèdre que nous allons présenter en début de saison l'an prochain ne terminera pas ses jours avec cette saison-ci, que je pourrai retrouver les mêmes acteurs, mettons, 2 ans plus tard, pour une toute petite série de représentations, et par là même associer le public à notre travail d'approfondissement. Quant à dire que, une fois visité un terrain, il faut passer à un autre, je dirais que ça dépend de la nature du terrain. Et quand il s'agit d'un terrain de la nature de celui de Phèdre, je suis tranquille, on peut le revisiter 100 fois, le regard ne se lassera pas.
Jean prie.
Je crois que conserver ces choses aussi, c'est assurer la permanence des mythes. Parce qu'autant que je sache, nous n'avons pas, notre époque n'a pas encore inventé ces nouveaux mythes. J'entendais vraiment, je crois que c'est Stenner qui disait que le dernier mythe inventé, c'est celui de Don Juan. Alors peut-être qu'il faut encore assurer, en attendant, peut-être, de nouveaux mythes. Et que ceux-là ont encore aujourd'hui cette permanence.
Jean-Pierre Vincent nous a dit un projet, bien sûr, mais c'est aussi pour en changer. Comment est-ce que vous comprenez cela, Jean-Marie Villégier ?
Ah, je crois que je comprends assez bien, j'espère comprendre assez bien ce qu'il veut dire. D'abord, je le vérifie tous les jours en ce moment, avoir un projet, c'est avoir quelque chose à confronter à une réalité. La réalité d'une maison, la réalité d'une ville, la réalité d'un public. Et il est clair qu'on entend ce à quoi on se confronte que si l'on a quelque chose à modifier dans cette rencontre. Si l'on est uniquement plastique, rien ne se passe, on ne prend qu'une empreinte. C'est le moyen même d'une véritable conversation. Quant à changer à 180 degrés d'un projet, moi je ne pense pas qu'il faille faire ça. Je pense qu'il faut plutôt que le projet entre en conversation avec le public auquel il est proposé. Voilà, c'est tout. Mais du répertoire, j'aimerais dire autre chose. Le répertoire, c'est ce que j'ai dit en commençant, et ce que définissait très bien Hubert Gignoux. Il y a, et c'est vrai, le répertoire personnel d'un metteur en scène. Mais il y a aussi l'idée du répertoire. Je veux dire, ce que nous savons, plus ou moins, tous, encore, être le grand répertoire. C'est-à-dire que le répertoire, c'est pas seulement une chose à réaliser, c'est une chose peut-être aussi à laquelle il convient d'opposer un autre répertoire. Au répertoire officiel, qui demeure virtuellement présent dans beaucoup de consciences, il est important de pouvoir répondre par un répertoire clandestin, le répertoire du théâtre que refoulait le répertoire officiel. C'est ça qui peut être intéressant, c'est de s'apercevoir qu'il y a un revers au répertoire, il y a l'anti-répertoire qui est aussi un répertoire.
Au niveau du répertoire, j'ai toujours pensé que le public français était assez peu curieux, qu'il avait des réflexes un peu trop prévisibles, de retour obstiné au même chef-d'œuvre du monde répertorié. Il me semblait que il revenait à une institution comme le TNS d'aller un peu ailleurs, quelquefois dans les œuvres totalement inconnues, en France et à l'étranger, quelquefois dans les œuvres relativement inconnues d'auteurs très connus, bref, d'échapper à ce qui pouvait apparaître depuis une bonne dizaine d'années comme le tropisme abusif du TNS, le tropisme allemand, enfin. Et peut-être même à l'intérieur de ce tropisme, le romantisme allemand et puis la production immédiatement récente. Donc de rendre le répertoire de TNS à une vraie mission de théâtre national en inscrivant le moment régional de cette mission par un dialogue, une ouverture, une programmation systématique mais mesurée des aventures des compagnies locales. Et le moment européen, je savais bien qu'on ne pouvait pas éluder ce moment, mais ce moment avait des conséquences financières, avait des conséquences politiques et même structurelles que je n'avais pas tout à fait mesurées. J'ai voulu anticiper, j'ai voulu faire d'abord et légiférer après. Et dès les premières années, j'ai fait appel à des metteurs en scène venus d'ailleurs. Voilà.
Vous le fracas des armes des bois.
Fermé par un papier et agrafé. Préparez une autre farce pour ce faire.
Donc il faut les vivre.
De longan, un peu de racine de laser, une idée de garum.
Bigote, Rinis, toi la ville. Ne se coupe pas, faites-le, mettez-le. Ça t'est bien agavé, fille.
Condiment, la base d'un
dessert. Mon électrique, elle est cruelle, elle est cure, putain.
Très rouge et très saignant, le tableau rouge de Jan Vos.
Oui.
Alors l'interprète, il y a deux solitudes, deux monologues.
Deux monologues, d'une part le monologue
d'un sujet pris dans la toile, on pourrait dire, d'un comédien qui se trouve tout rouge, qui se trouve pris dans le tableau en relief de Jan Vos, et puis une gardienne de musée qui est là, qui garde le tableau et qui ne voit rien de ce qui se passe dans ce tableau, effectivement.
Mais passionnée de recettes.
Oui, de recettes d'Apicius. Tandis que le sujet du tableau, lui, parle de la bataille de Pharsale. Non,
mais Marius, ne sont pas des remparts. Ça vaut la mort.
Enfin, on va passer directement, je crois.
Qu'est-ce qu'on va voir?
Le tableau de Gilayou. Là, vous allez voir un bois.
Un vrai. Bois?
Oui, il ne parle pas, lui, mais... Donc là, il y a le peintre qui est dans son atelier et qui travaille. Dans, et... Il dialogue à la fois avec un serpent et un magnétophone, et le magnétophone parle avec la voix de Gilayou. C'est Gilles lui-même qui a enregistré, et c'est en fait ce qu'il a écrit lui-même.
Même quand c'est plein, horizontal, veux-je dire.
Surtout si c'est plat, c'est l'aridité de Yahvé qui tombe sur la terre et dans les cœurs comme une malédiction.
Tu aimes inverser l'ordre des causes. Seule une terre désolée pouvait inspirer à l'esprit des hommes l'idée d'un dieu aussi transcendant et aussi sec.
Nous avons entendu d'abord Jacques Lassalle, ensuite un tableau impossible. Alors vous, Claudine Gironès du Maillon, que faites-vous du répertoire ?
C'est après avoir entendu effectivement ce qui s'est dit autour du répertoire, c'est vrai que quand on pense répertoire, on a toujours la référence de la troupe, et en particulier de la Comédie française, où les pièces sont inscrite, rejouée, comme disait Jean-Marie Villégier, redonnée avec presque la même distribution, peut-être un autre éclairage et encore. Et que, bon, d'abord, moi, je ne suis pas metteur en scène, je dirige depuis peu de temps un théâtre où on peut, pour l'instant, en tout cas, pas parler de répertoire. Ce que disait Gilbert Tsai, qui donc était avec qui nous avons fait ces tableaux impossibles dans le accueilli par les musées, me paraît correspondre assez bien à ce que j'aimerais effectivement faire au Maillon, c'est-à-dire que ne pas donner justement proposer ce qui pourrait être un répertoire, mais je n'ai pas envie de dire contemporain parce qu'il ne s'agit pas tellement de textes forcément de textes contemporains. Mais disons d'une... Moi, je pense plutôt au travail de metteurs en scène à partir de ce qu'ils ont envie de faire et d'un répertoire qui se composerait un petit peu au gré de leurs envies et de ce qu'ils ont envie de dire maintenant. Et je crois en effet que la référence au répertoire, enfin pour moi en tout cas, elle passe effectivement par la possibilité de garder et de reproduire et de redonner des pièces auxquelles on a tous, on fait tous référence. Et je crois que un lieu comme le Théâtre du Maillon n'est pas un théâtre où il y a une troupe. Nous faisons des créations, mais des créations qui ne viennent pas de nous, puisque encore une fois, qui se font en faisant appel à des metteurs en scène extérieurs, donc auxquels je ne vais pas moi imposer un répertoire, imposer des textes. Donc je crois que c'est un répertoire un peu qui se fabrique avec un regard plutôt sur une forme que sur un texte. Et ce qui me frappe, c'est qu'effectivement là, en parlant de répertoire, on s'est toujours référé finalement à des textes. Alors est-ce que c'est seulement ça? Enfin, oui, peut-être le répertoire c'est le texte. Et moi j'ai envie de dire que les artistes auxquels qui viennent travailler au Maillon ou que j'accueille ou qui créent des spectacles au Maillon, je pense beaucoup aussi à la forme de la mise en scène et à partir de là se constitue une sorte de répertoire d'une.
Est-ce que vous pensez parfois au désir du public?
Bah, tout le temps. Je crois qu'aucun directeur de théâtre, un tant soit peu responsable, peut ne pas penser au désir du public. Simplement, le désir du public, Il est divers, il est varié,
éclaté.
Il est éclaté. Et je crois surtout que c'est aussi à nous de susciter ce désir et de, je veux dire, je crois pas qu'on a à répondre au désir du public, on a à le susciter. Et les artistes le savent très bien.
En vous écoutant et en écoutant votre question, est-ce que justement le problème du répertoire n'est pas intimement lié au problème du public, c'est-à-dire la façon dont peut se constituer, je parlais tout à l'heure de réserve, aussi un réservoir de public, c'est-à-dire à partir du moment où une structure, comme soit le Maillon, que ce soit le TNS, enfin, une structure importante accueille des spectacles et invite un certain nombre de metteurs en scène à travailler sur des spectacles. À partir du moment où ce répertoire se devient lisible, devient sensible, il y a forcément un public qui va aller vers ce répertoire. Et donc, on peut parler de fidélisation, on peut parler de constitution de public. Il me semble que là, la question de la réception et de la manière dont le responsable de cette structure va vers le public, l'appelle d'une manière quasi, dans certains cas, sans danger, et dans d'autres cas, avec beaucoup d'audace, mais je crois que c'est là que tout se joue, le problème du public me paraît important. Enfin là, je parle en profane, c'est une question plutôt que...
Antoine Vicaire, est-ce que vous avez vu une tradition du répertoire ici à Strasbourg?
Oui, j'ai envie de reprendre un peu où Roland Recht a laissé l'affaire. Je crois qu'on aura vite fait de comprendre ici que le dialogue, du point de vue des répertoires, du théâtre, des pratiques théâtrales, va se, du point de vue de la mémoire qu'on en garde ici, je parle du terrain un peu local, le dialogue va se nouer de manière très précise entre, en effet, Jean-Pierre Vincent, à travers ce qu'il vient de rappeler tout à l'heure, et ce qu'inaugure Jean-Marie Villéger ici. Je crois que c'est pas en termes d'opposition du tout qu'il faut l'entendre. On a deviné, on a compris que Jean-Marie Villéger aimerait bien que Vincent soit obligé dans quelques années d'ajouter le TNS à la liste des théâtres de répertoire, c'est-à-dire les Allemands, la Comédie Française et le TNS. D'un côté, je crois qu'en effet, c'est une énergie qui nous intéresse aussi, et que le lieu dont lui dit, l'endroit dont lui dit ça, c'est la manière dont lui a marqué à Strasbourg sur des énergies ou sur des options qui ne sont pas celles du répertoire de manière précise. Comme on en parle là à la Comédie Française ou comme Villéger en parle, mais du point de vue de ce que disait Lacoue Labarthe en début d'émission, c'est-à-dire le répertoire d'un homme ou d'une équipe, comme après tout le TJP en a construit un dans ses créations maison sur quelques années, et que cette énergie disons les années 70 a marqué ici fortement un public, a fixé autour de la maison un public important qui se trouve aujourd'hui en position de réinterroger le rapport qu'ils ont eu au TNS avec beaucoup de manière extrêmement favorable, je dois dire, ce qui prouve bien que l'opposition ne se pose, que ce dialogue ne se pose pas en termes d'opposition, mais de dialogue et en effet d'avancer dans l'histoire, d'avancer dans les époques, et je crois qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation très intéressante.
Alors comment allez-vous concilier les deux répertoires officiels et souterrains?
Ah, je n'en dirai pas beaucoup plus aujourd'hui sur ce sujet, c'est la pratique qui le dira, et l'affiche de notre prochaine saison commencera un peu à le dire. Mais non, je voudrais simplement évoquer ici un certain fonctionnement qui a été celui de Jean Villard, justement en matière de répertoire. Jean Villard avait une troupe, mais cette troupe était loin d'être gigantesque, et cette troupe se renouvelait assez souvent. Et j'évoque dans mon souvenir d'adolescent ce qu'ont été les premières saisons de Villard. Je me souviens donc qu'il avait programmé Le Cid, Mère Courage, Richard II, Le Prince de Hambourg, Cinna, Nucléa, La Nouvelle Mandragore, Le Triomphe de l'Amour, La Mort de Danton, L'Avare, Macbeth, La Ville, Lorenzaccio. Je pourrais continuer longtemps. Mais excusez-moi, si je vous fais subir cette liste, c'est que elle m'intéresse par sa diversité. Y voisinaient des ouvrages dont aujourd'hui nous ne mesurons peut-être plus l'extrême diversité. Mère Courage, lorsque Villard l'a créé en France, ce fut d'abord un bide. Ce fut ensuite un très grand succès au fil des années. C'était une œuvre absolument inconnue du public français. C'est devenu l'un des grands succès du Théâtre National Populaire. Richard II, c'était la toute première fois que l'on créait cette pièce de Shakespeare en langue française. le prince de Hombourg, pratiquement jamais vu en France, s'il n'a bien connu. Nucléa la nouvelle Mandragore, des auteurs contemporains. Le triomphe de l'amour, un Marivaux absolument oublié. La mort de Danton, un Büchner que personne n'avait encore déterré. Je peux continuer comme ça. Cette liste, qui aujourd'hui est pratiquement, à de très rares exceptions près, devenue une liste de classiques, qui appartient à notre répertoire à tous, est une liste que Villard a fabriquée à partir de l'hétérogène. Et je me souviens aussi d'autre chose, c'est que dans le mémento de Jean Villard, on trouve une petite note où il dit « Prêtez aujourd'hui à George Wilson les 12 volumes de l'ancien théâtre français ». J'ai vu dans cette petite note une indication de ce qu'aurait fait Villard s'il avait continué le TNP vers des zones inconnues de notre patrimoine.
Pour moi, en tous les cas, ça a été absolument décisif. Et pour plusieurs raisons. D'une part, ça m'a obligé à travailler sur Hölderlin. Et dans les années où je préparais ces mises en scène avec Deutsch, j'ai fait cours sur la théorie de la tragédie de Hölderlin, plusieurs années de suite. Bon, ça a été je sais pas, du point de vue de mon itinéraire philosophique, si ça a un sens, ça a été un pas absolument décisif. Moi, j'ai l'impression que, en gros, tout ce que j'ai réussi à articuler en philo, ou du moins dans le domaine de l'essai, ça vient de ce travail. Ensuite, moi je trouve que ça a été décisif parce que c'est la première fois que, et maintenant j'y tiens beaucoup et je veux poursuivre ça, quoi qu'il arrive, que j'ai l'impression de faire un travail artistique concret. Et en particulier de sortir de la solitude de l'écriture, si on peut appeler ça comme ça. C'est une expérience très très impressionnante de monter quelque chose, de travailler avec les acteurs, d'être en partie responsable de l'écriture du texte et donc de confronter ce qu'on a voulu dire ou faire dire au texte avec ce que les acteurs peuvent faire ou ne peuvent pas faire. Bon. Et puis enfin, je crois qu'il y a quelque chose à faire, au théâtre, comme ça en général aujourd'hui. Il y a une nécessité très profonde de la confrontation de ce qu'on appelle l'écriture, en général, avec la réalité scénique. La voix, les corps, l'espace, les déplacements, tout ce qui fait la théâtralité même. Et peut-être ce qui est le plus important pour moi, c'était... Bon, le texte, la traduction de Sophocle par Hölderlin, c'est d'une certaine manière assez ahurissant. Hein, c'est à la limite du contresens, presque tout le temps. C'est une espèce de violence faite aux Grecs incroyable. Bon, et en même temps, c'est un poème absolument génial. Bon, alors mettre en scène un poème, parce que ça revenait à ça, je crois que là, c'est une expérience... Je dirais même, c'est l'expérience de la littérature aujourd'hui. Et un poème très difficile, et presque incompréhensible, mais qu'on doit présenter comme ça et faire résonner.
Alors, quelle serait votre position par rapport à une institution comme le TNS ?
Et j'ai travaillé déjà avec le TNS quand Jean-Pierre Vincent était à la direction. C'était, oui, parce que j'avais créé un spectacle pour lequel j'avais... Donc, était joué par des enfants de 10 ans. Et pour ce spectacle, j'avais commandé des textes à des philosophes. Il y avait des textes de Philippe Lacoulabard, de Jean-Luc Nancy, d'Hélène Cixous. Et des textes qui ne s'adressaient pas du tout aux enfants. J'avais fait jouer les enfants pour des adultes. Et il y a eu toute une série d'expériences comme ça, un peu différentes.
Alors là, on va vers le tableau final.
C'est ça, le tableau final.
C'est-à-dire que tous les tableaux se regroupent.
Voilà, tous les groupes donc, qui avaient fait la visite des différents tableaux dans un ordre différent, maintenant se retrouvent tous pour le tableau final, qui est le tableau de Jacques Monory.
Et tout Strasbourg avec nous, hein ?
Oui.
Nous sommes 2000.
Oui, pratiquement.
2000 dans les rues.
Oui.
Je déteste ce numéro de Tigre et Mandel, et je ne comprendrai jamais
le plaisir qui trompe le public.
Avec l'expérience théâtrale de Philippe Lacoulabarthe et les tableaux impossibles de Gilbert Tsai, s'achève Le Pays d'ici en direct de la salle de musique de l'école du TNS. Aujourd'hui, la question du répertoire. Prise de son et mixage, Marcel Lebras. Collaboration technique, Daniel Lepêtre. Réalisation, François Test. Bonsoir.
C'était la quatrième et dernière émission d'une série du Pays d'ici consacrée au Théâtre National de Strasbourg. Première diffusion le 31 mai 1991 sur France Culture. À suivre.